enverra sa vengeance. Il émergera des cieux tel un éclair de feu qui s'abattra sur Londres et engloutira tous ceux qui ne se seront pas repentis.
Sornette, le bon Dieu ne va pas détruire Londres. Il a oublié son existence depuis des lustres. John sait, combien de fois l'infirmière Hudson ne lui a-t-elle pas répété, qu'il devrait éviter d'emprunter les quais pour entrer chez lui. Le mur rend la promenade sur les berges invisible depuis la route, ce qui la rend particulièrement propice aux activités des voleurs et autres égorgeurs, mais à ses yeux, l'autre option est pire. Des piétons et des véhicules surgissent des ténèbres pour se jeter sur lui, et il suffit d'un claquement de sabots sur le bitume pour que son cœur parte au galop. Non, passer par le bas est beaucoup moins éprouvant. D'autant plus qu'il sent le poids rassurant de son revolver d'ordonnance dans sa poche. Il n'ose pas le laisser dans son meublé, car il est certain que son propriétaire fouille dans ses affaires, mais son casier à l'hôpital est muni d'un robuste cadenas, ce qui lui permet de le déposer pendant ses heures de travail. En cet instant précis, il est heureux de l'avoir sur lui. En effet, à mesure qu'il progresse sur le sentier longeant la Tamise, le silence s'épaissit autour de lui comme pour la vallée, et ses sens sont en alerte maximale. C'est instinctif. Les années passées sur le champ de bataille l'ont rendu hyper vigilant au moindre son et au plus léger mouvement, même s'il ne voit pas à plus de 5 pas devant lui. Le mur du quai forme une ombre, comme une bande sur sa droite. Au-delà, avançant silencieusement au même rythme que lui, coule le fleuve. Il perçoit les clapotis de l'eau graisseuse contre les briques. Il sent les effluves des usines et égouts qui s'immiscent toujours jusqu'ici. La marée doit être haute de nouveau. Quelque part en aval, les manutentionnaires s'interpellent et, de temps à autre, résonne la corne lugubre d'une barge qui transporte des marchandises vers les docks, là-bas, à l'est de la ville. Ce son lui évoque des fruits exotiques, des épices, si loin de son souper à venir. Comme il ne peut s'offrir qu'une simple chambre en guise de logement, il n'a pas de place pour stocker la nourriture. Si sa mémoire ne lui joue pas des tours, son placard ne recèle rien d'autre que quelques boîtes de sardines et de cornets de bœuf, ainsi qu'une miche de pain vieille de 3 jours. Cependant, c'est la perspective de la demi-bouteille de scotch qui lui met vraiment l'eau à la bouche. Un verre ou deux et la compagnie d'un bon livre l'aident toujours à achever sa soirée. Un troisième lui garantit quelques heures de sommeil. En prenant cette chambre perchée dans les combles d'un hôtel particulier géorgien délabré, il redoutait que les autres locataires des lieux ne le dérangent, car des familles s'entassent dans toutes les autres pièces et il y a un nouveau-né à l'étage inférieur, mais ses craintes se sont révélées infondées. Les enfants sont trop occupés à se battre entre eux, à se pourchasser dans les rues ou à envoyer un ballon contre les murs de briques rouges pour s'intéresser à lui. Il en a aidé beaucoup à surmonter les inévitables accidents du quotidien. Il faut dire qu'il a accès à des pansements, sirop contre la toux, comprimés et poudres, et certains soirs, il est rentré avec ses petits produits chapardés pour soigner un enfant dans le besoin. Il sait que c'est mal, mais l'hôpital est tellement saturé qu'on les aurait refoulés. John accélère le pas autant qu'il peut. Sa patte folle à la traîne et les bras croisés sur la poitrine pour se protéger de la morsure du froid. Il a distancé Saint-Peters à présent, mais son souvenir le pousse à lever les yeux vers le ciel. Les nuages sont bas et oppressants. Aucun éclair de feu en vue. On dirait que Londres va être épargnée pour une nuit supplémentaire. Là-haut, quelque chose se déplace dans le brouillard. Il s'immobilise. Une silhouette étrange s'agite sur le trottoir. Elle possède un trop grand nombre de membres, telle la déesse noire vénérée par certains des soldats hindous qu'il a connus. Un cri monte dans sa gorge et ses muscles se bandent, prêts à la fuite. Puis la forme se désagrège en 5 parties. 4 d'entre elles se déploient et se redressent en laissant une étendue sur le sol. Dans un premier temps, John a l'impression que les créatures sortent tout droit d'une histoire d'horreur, qu'il s'agit de revenants ou de zombies dévorant un cadavre. Il les a interrompues, et elle reste plantée là, à l'observer silencieusement, s'efforçant de déterminer la conduite à adopter. Il sort le revolver de sa poche. Ce geste semble leur envoyer un signal. L'une d'elles part dans un rire cruel, proche du ricanement, et l'instant d'après, les formes fondent sur lui. Lorsqu'elle se rapproche, il discerne l'éclat terne de l'acier. Des armes. Pourquoi est-il descendu ici? Pourquoi n'a-t-il pas écouté l'infirmière Hudson? Appeler à l'aide ne servirait à rien, car personne n'est à proximité. Ces créatures, quelle que soit leur nature, peuvent se jeter sur lui, le dépouiller et, si l'envie leur prend, ou si elles n'estiment pas cela suffisant, le tuer. Devrait-il tourner les talons et prendre ses jambes à son cou? Non, elles le rattraperont avant qu'il n'ait fait 10 pas. Il lève son revolver et les vide.